the three verses 6 through 9, and then we'll continue on.
Retournons à Galates 3, on va lire les versets 6 à 9. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi ». Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant.
Okay. So, Abraham is a big Old Testament character.
Donc, Abraham, c'est un important personnage de l'Ancien Testament.
So we're going to study a little bit about him, but before we do, let's pray again.
On va regarder un petit peu plus en détail Abraham, mais avant, prions.
Jesus, we give you our hearts.
Jésus, nous te donnons nos cœurs.
And our minds.
Nos pensées.
And we desire that you would teach us.
Apprends-nous.
And we know that you will through your Spirit.
Et nous savons que tu le feras par ton esprit.
Teach us about your great work on the cross.
Apprends-nous, fais-nous comprendre ton œuvre sur la croix.
In Jesus' name.
Au nom de Jésus.
Amen.
Amen.
All right. So this argument number 7 is titled "The Argument of Abraham."
Donc cet argument, c'est le septième argument, c'est l'argument dit d'Abraham. On peut lui donner un titre.
And the big idea of this argument is that it's always been the same.
Et l'idée dans cet argument, c'est que ça a toujours été la même chose.
It's always been by faith.
Que ça a toujours été par la foi.
And it's always been about trusting in God's promises.
Et ça a toujours été une question de foi dans les promesses de Dieu.
So, Paul quotes from the book of Genesis.
Donc Paul cite le livre de la Genèse.
And Abraham's life takes up many chapters in the book of Genesis.
Et il y a beaucoup de chapitres dans le livre de la Genèse qui nous parlent de la vie d'Abraham.
So we'll just focus on the chapter that Paul quotes.
Donc on va pas s'y attarder sur tous ces passages. On va regarder simplement la partie duquel est tiré le verset que cite Paul.
I encourage you to read Abraham's life.
Jordan vous encourage à lire la vie d'Abraham.
Genesis 12 through 25.
C'est la Genèse 12 à 25.
As well as other places in the Old and New Testament.
Et il y a d'autres passages qui parlent d'Abraham dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament.
But turn to Genesis chapter 15.
Mais tournons-nous dans le chapitre 15 du livre de la Genèse.
And we'll see in Genesis chapter 15 verse 6 is where Paul quotes from.
Et Paul est en train de nous citer la Genèse 15, verset 6.
But we're just going to read the first, let's do the first 7 verses of Genesis chapter 15.
Mais on va lire ensemble les premiers 7 versets du chapitre 15 de la Genèse. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. »
Okay, so I want you to notice two promises that God makes to Abraham.
Donc remarquez ici dans ce passage deux promesses que Dieu fait à Abraham.
He promises that he will give him descendants as numerous as the stars.
Il lui promet qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles.
He also says that he will give him an inheritance in the land.
Il lui dit aussi qu'il va avoir un héritage dans le pays.
And in Genesis 12, there's one more says that he, which is referenced in verse 8 in Galatians, that in him all the nations shall be blessed.
Et dans le chapitre 12 de la Genèse, il y a une autre promesse qui est faite à Abraham, qui est que toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Et c'est cité aussi dans le passage que nous sommes en train de regarder dans Galates.
So those are the main promises made to Abraham.
Donc ça, c'est les principales promesses que Dieu a fait à Abraham.
But obviously, the one Abraham is taking up issue with God about is his descendants.
Mais celle que Abraham remet un petit peu en question, c'est la question de sa descendance.
And God promised him many descendants, but he had no son or daughter of his own body.
Et Dieu lui avait promis une descendance très nombreuse, mais lui n'avait pas de fils ou de fille qui venait de lui par sa chair.
And so because Abraham didn't experience any fruit of his body,
et comme Abraham n'avait pas de fruits,
he comes up with an explanation that he's going to make a business proposal to God.
Il fait en quelque sorte une proposition un petit peu comme un contrat ou une proposition de travail ou de un contrat avec Dieu.
See, Abraham wants to help God fulfill his promises.
Abraham veut essayer d'aider Dieu à accomplir ses promesses pour lui.
Kind of like we want to help God fulfill his promises.
Un petit peu comme nous voulons parfois aider Dieu à accomplir, à répondre à ses promesses, des promesses qu'il a fait pour nous.
But the Lord said, look up into heaven.
Dieu lui dit, regarde vers le ciel.
He says, you can't even count the number of stars. That's how many kids you're going to have, how many descendants you're going to have.
Et lui dit, tu n'arrives même pas à les compter, les étoiles. C'est ce que je veux te dire. Tu auras tellement autant de descendants.
And he specifically says that this is going to come from your body.
Et lui dit clairement que ça va venir de lui physiquement.
Now, if you study Romans chapter 4,
si vous étudiez le chapitre 4 du livre des Romains,
you'll also see that Paul uses him as a great Abraham as a great example of faith in that chapter as well.
Paul se sert aussi d'Abraham comme un exemple de foi dans ce chapitre 4 du livre de Romains.
And he goes a little bit more in depth.
Et il va un petit peu plus en détail dans ce chapitre 4.
In fact, you can turn there, we'll read one verse from there.
Tournons-nous-y dans le livre de Romains, chapitre 4. On va lire un verset.
Let's do two verses, do 20 and 21, chapter.
On va en lire 2, versets 3, 19 à 21. Donc, Romains 4, versets 19 à 21. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir.
Okay. So the in-depth part of the story is God promises that Abraham's going to have kids, but he's got a problem because he's old.
Donc le cœur de l'histoire, c'est que Dieu lui promet qu'il va avoir un enfant, mais Abraham est très vieux.
Now I'm not a doctor.
Jordan n'est pas un médecin.
But I know at a certain age both men and women's bodies break down.
Donc c'est pas un médecin, mais il sait très bien qu'à partir d'un certain âge, les corps des hommes et des femmes commencent à vraiment vieillir et être abîmés.
And because of this chapter,
et à cause de ce chapitre,
I did a study to see if it's possible for a woman to get pregnant after she's gone through menopause.
Jordan a regardé pour voir s'il y avait des antécédents médicaux, si c'est possible d'avoir des enfants après la ménopause.
Not possible.
C'est pas possible.
Unless,
à moins que
the doctor somehow extracts an egg and then plugs it full of seed.
À moins que ça soit fait de manière artificielle en prélevant un œuf, pour ainsi dire, et en faisant les choses avec une pipette.
But it takes an outside force.
Mais ça demande une intervention extérieure.
And even that is extremely rare.
Et même ça, c'est très très rare.
As far as I understand.
En tout cas, pour ce qu'il a compris.
So obviously, Abraham has good reason just knowing his wife's body.
Donc il y a de bonnes raisons pour Abraham de douter parce qu'il connaît, il connaît sa femme, il voit l'état dans lequel elle est.
He had some bodily issues.
Ils avaient des problèmes physiques.
And so, but God said, you're gonna have kids.
Mais Dieu lui a dit, tu vas avoir des enfants.
God told him he's gonna have kids, even though he's broke.
Dieu a dit, tu vas avoir des enfants malgré le fait qu'il était cassé. Jordan ne sait pas comment il réagirait si Dieu lui disait quelque chose comme ça.
But the important thing that we see here in Galatians chapter 3,
mais la chose importante que nous voyons dans Galates chapitre 3
is at God's promise,
c'est qu'au moment où Dieu lui fait la promesse,
Abraham believed God.
Dieu a cru ce que Dieu lui disait.
And because he believed God, it was accounted to him for righteousness.
Et parce qu'Abraham a cru Dieu, cela lui a été compté comme justice.
So, we can conclude with Abraham that our righteousness comes from believing in God's promises.
Donc pour nous aussi, on peut conclure que la, notre justice, notre salut vient par notre foi en Dieu.
And it says that it was accounted, literally put into our account. It's a banking term.
Et le terme ici, cela lui fut compté, c'est un terme de banque ici. C'est quelque chose qui est mis dans notre compte. C'est un crédit.
And as well as it's a fact.
Et, en même, et ça traduit aussi une idée du fait que c'est un fait.
Just like Abraham, we believe, and that's what declares us righteous.
Comme Abraham, nous croyons, et c'est ce qui nous donne, nous établit comme juste.
So he says, know that those, verse 7, know that those who are of faith are sons of Abraham.
Et donc il dit au verset 7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham.
And that definitely rings true in the Jew or the Jewish teacher, the false Christian's ears of this chapter because of John chapter 8.
Et ça c'était vrai vis-à-vis de ces prétendus frères à cause de ce qui est dit dans l'évangile de Jean chapitre 8.
And so he says that they are sons of Abraham, things that the Jews claimed for themselves.
C'était quelque chose que les Juifs, ceux qui suivaient la loi, disaient à propos d'eux-mêmes, c'était qu'ils étaient des fils d'Abraham.
But distinctly saying that only those who are of faith are his sons.
Et ici, Paul fait une distinction en disant que ce sont seulement ceux qui croient en Dieu, qui font confiance à Dieu comme Abraham, qui sont les fils d'Abraham aux yeux de Dieu.
And so he continues in verse 8 of Galatians 3.
Continuons dans le livre de Galates.
He says that the scripture saw that God would justify the Gentiles by faith. He preached that God, who wrote the scriptures, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed.
Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi.
So even, it's always been about faith, it's always been by trusting in God's promises, and God has always had a huge heart for the nations.
Donc ça a toujours été une question de la foi, le salut est toujours venu par la foi, la confiance en Dieu. Mais on voit ici qu'il y a, on voit aussi le cœur de Dieu pour toutes les nations.
So then, verse 9.
Verset 9, il dit ainsi.
Those who are of faith are blessed with believing Abraham.
Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.
And what Paul is doing is he's stealing the Jewish teachers their main horse.
Il est en train de prendre le principal argument ou la principale fierté des enseignants religieux juifs.
And he's beginning to argue, understanding how they would approach their arguments.
Comme il avait une très bonne connaissance de leur réflexion, de leur pensée à propos de ça, il est en train de les attaquer sur ce même terrain et de retourner la chose contre eux.
So he starts with their father.
Et il commence ici avec leur père.
And he says that even Abraham was blessed by faith.
Et il dit même Abraham a été béni à cause de sa foi.
And he reiterates that only those who are of faith are blessed. Basically, only those who are of faith inherit the promises that were made to Abraham.
Et il réitère, il dit de manière un petit peu différente la même chose, que seuls ceux qui ont la foi, qui croient Dieu, les promesses de Dieu, sont bénis et reçoivent l'accomplissement de ces promesses de Dieu.
And now we see a big little word.
Et ici, on voit un grand petit mot.
Okay. And he says, those who are of faith.
Il dit, is that verse 9?
Yeah, verse 9.
Ceux qui croient, ou ceux qui sont de la foi.
And it's the word of.
Et c'est cette idée du mot de. It's a little difficult. The wording in French is a tad different.
Okay, that's fine. But it's there, right? Mm-hmm. Okay. This word is important because I don't know if you guys enjoy grammar. I hated grammar in school.
Jordan ne sait pas si vous appréciez la grammaire, mais lui, il a détesté la grammaire quand il était à l'école.
But because I started studying the Bible, I started enjoying grammar.
Mais comme quand il a commencé à étudier la Bible, il a commencé à apprécier la grammaire.
And we see here the word of is a primary preposition denoting origin.
Et ce mot « de » est une préposition qui veut montrer une origine.
Okay. So basically, if you think of it in mathematical terms, if you look at a graph, it would be the point on a linear graph, the dot where the line would originate.
Si on veut voir ça de manière graphique, mathématique, ce serait un point d'où les lignes prendraient leur origine.
And this word is used 26 times in Galatians.
Et ce mot-là est utilisé 26 fois dans le livre de Galates.
And of the 26 times it's used, 18 times in this chapter.
Et dans ce chapitre, il est utilisé 18 fois.
And it's no surprise because Paul is making his defense of where your righteousness originates.
Et c'est logique parce que Paul est en train d'expliquer d'où l'origine de notre salut.
And he's already used it a number of times so far in this chapter.
Et il a déjà utilisé plusieurs fois dans ce que nous avons vu.
And he'll continue to highlight it.
Et il va continuer à l'utiliser dans la suite.
So basically, if we understand the definition as origination,
donc si on comprend que c'est en train d'impliquer l'origine,
we see that so then those who originate in faith are blessed with believing Abraham.
On pourrait dire que ceux qui commencent dans la foi, qui tirent l'origine de leur salut de la foi, qui sont bénis en Abraham.
So we see that even grammatically, the origin of our faith, the origin of our righteousness comes by faith.
Donc même grammaticalement, on voit il y a une question d'origine et qui veut souligner l'origine de notre salut.
And they're called sons of Abraham, and it's interesting that origination is a lot like birth.
C'est intéressant aussi parce qu'on parle des fils d'Abraham, des enfants d'Abraham, et qu'il y a aussi une question de naissance.
And Jesus himself used the metaphor of birth to explain our origin in salvation.
Et Jésus lui-même a parlé de la naissance comme d'une métaphore pour parler de notre salut.
And it's going to be no surprise on Saturday when we look at the primary application of the gospel truth is an examination of how we are sons of God.
Et donc ça va être tout naturel dans la suite samedi quand nous allons regarder les applications concrètes de comment nous devons vivre l'évangile, que la métaphore c'est que nous devons être des enfants. Et on va regarder ce que ça veut dire que d'être des enfants de Dieu.
Or a daughter of God.
Fils ou fille.
And here Paul is beginning his explanation that he'll build on practically applying those truths to our lives.
Et Paul commence ici cette idée qu'il va utiliser pour baser les explications qu'il va donner pour les applications concrètes dans nos vies.
And the next argument he gives is in verses 10 and 12, 10 through 12.
Le prochain argument est dans les versets 10 à 12.
And we can go and read those two verses.
Et on va les lire ensemble maintenant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. »
Okay. So again, he is continuing his line of arguments, but he's going back even further. Not only is he going to reference Abraham here in the Jewish mind, he's going to reference their law.
Et donc il continue là les différents points de défense et après avoir abordé la question d'Abraham vis-à-vis des juifs, des pratiques religieuses juives, ici il va s'attaquer à quelque chose de très important pour eux qui est la loi.
But before we get there, I wanted to make one application point.
Mais avant de le regarder, Jordan voulait nous donner une application concrète.
In regards to Abraham,
concernant Abraham,
I think this is it can be applied in such a way that I don't know if you guys have people that you look up to.
Est-ce que vous avez des gens que vous tenez en haute estime?
That people that are Christians that you really appreciate and enjoy their walk with God.
Des chrétiens, des frères et des sœurs que vous appréciez vraiment, ou quand vous voyez leur vie avec Dieu, ça vous inspire, ça vous encourage, ça vous exhorte.
And sometimes that can accidentally turn into discouragement because you're not quite up to their standard.
Par moments, ça peut vous décourager parce que vous regardez et vous vous dites j'y suis pas, j'arrive pas à faire ce qu'ils font.
That you're not quite who they are, and so you think that shoot, I'm not as good, and so God must not like me as much, or something along those lines.
Vous vous dites j'arrive pas à leur niveau, donc zut, Dieu doit pas m'aimer autant qu'eux.
But seeing Abraham and his example and the argument that Paul uses reminds us that it's always been the same.
Mais quand on regarde Abraham et la manière dont Paul l'utilise dans son argument, il faut qu'on se rappelle que ça a toujours été la même chose.
People haven't been commended to God or looked better in God's eyes because of their outstanding spirituality.
Ça a toujours été la même chose. Les gens n'ont jamais été conseiller à Dieu. Dieu n'aura pas dit tiens, celui-là il a vraiment une vie religieuse spirituelle incroyable.
Or their education or their pocketbook or anything.
Ça n'a jamais été leur éducation ou quoi que ce soit d'autre dans leur vie.
But they have been only commended to God because of what Jesus has done based on the promises of God.
Ils ont leur statut vis-à-vis de Dieu simplement et seulement à cause de leur foi en Jésus, de ce que Dieu a fait pour eux.
And I think sometimes it's good to have people to look up to that we want to imitate our lives by.
C'est bon pour nous d'avoir des gens, des exemples, des modèles qui nous donnent des choses que nous avons envie d'imiter et de vivre aussi.
It's inspiring.
C'est une inspiration pour nous.
But if that ever turns into us being discouraged because we're not at a certain level.
Mais si ça se transforme en découragement parce que nous n'arrivons pas à suivre cet exemple.
Remember Abraham.
Souvenez-vous d'Abraham.
It's always been the same.
Ça a toujours été la même chose.
We've always approached God the same way.
Il y a toujours eu une seule manière de s'approcher de Dieu.
By believing in his promises.
En le croyant et en croyant ses promesses.
In fact, the argument that we're going to look at now,
l'argument que nous allons regarder maintenant,
is an argument that Paul uses. That he singles out three Old Testament scriptures.
Il va détailler trois versets de l'Ancien Testament.
Each verse 10, 11 and 12, Paul uses one Old Testament scripture.
Dans chaque verset 10, 11 et 12, il utilise un petit passage de l'Ancien Testament.
And so I've likely named this argument number 8, the argument from Scripture.
Et donc, Jordan a donné à cet argument, le huitième argument, le titre, l'argument à partir des Écritures.
And in the mind of the Jewish teachers of the false Christians.
Et dans la pensée des enseignants religieux juifs, des prétendus frères aussi.
Even though Paul has now eliminated Abraham.
Même si Paul a dit, bon, ben, Abraham est un petit peu éliminé vis-à-vis de leur argumentation pour les enseignants religieux juifs,
they still have the law of God.
Ils se disent peut-être, on peut encore se baser sur la loi de Dieu.
You know, you've seen the movie, right?
Vous avez vu le film?
Charlton Heston's up on the mountain.
Charlton Heston, sur la montagne, les bras levés.
No, yes, I haven't seen that. The Ten Commandments.
Vous n'avez pas vu le film des Dix Commandements, le classique?
Isn't that required for a church membership?
C'est pas nécessaire pour qu'on puisse faire partie de l'Église.
Paul says in verse 10, "For as many as are of, member of origination."
Il dit en effet tous ceux qui sont de. On se souvient de cette idée de tirer leur origine de quelque chose.
As many as are of the works of the law are actually under a curse.
Il dit en effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction.
And he cites the scripture Deuteronomy 27:26.
Et il cite Deutéronome 27:26.
It says, "Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them."
Il dit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique.
No one wants to be cursed.
Personne n'a envie d'être maudit.
They'd rather be blessed.
On a envie d'être béni.
Right? Obviously.
Non, c'est évident.
Yeah. So, the word curse is the same word used in Genesis chapter 3 in the Genesis or in the Greek Old Testament.
Le mot ici, maudit, est le même qui est utilisé dans le chapitre 3 de la Genèse
to describe God's reaction to sin.
Pour décrire la réaction de Dieu vis-à-vis du péché.
He brought divine punishment as well as showed divine wrath.
Il a amené une punition divine et il a aussi montré la colère divine.
Now, if you had a choice between a spanking or cake, which one would you choose?
Si on vous donne le choix entre une fessée et du gâteau, vous prenez quoi?
Gâteau, yeah. Obviously.
C'est évident.
You'd obviously choose cake.
On va prendre le gâteau.
Because you'd rather have the blessings.
Parce qu'on préfère les bénédictions.
Than the curse.
Aux malédictions.
And Paul is using this argument to show the Jews.
Et Paul se sert de cet argument pour montrer aux Juifs
that unless you fulfill every single commandment,
pour dire qu'à moins de suivre, si vous n'arrivez pas à suivre tous les commandements,
you are actually under a curse.
En fait, ils sont maudits, ils sont sous une malédiction.
And they knew this.
Et ils le savaient.
It's written right there in their law.
C'est écrit dans la loi, dans les écritures qu'ils utilisaient.
And it's interesting that the Pharisees say in John chapter 7.
Dans Jean chapitre 7, c'est intéressant de noter ce que disent les pharisiens.
They're talking in regard to this common people.
Ils parlent à propos du peuple en commun.
Verse 49.
Dans Jean chapitre 7 verset 49,
he says, they say that the crowd, not them, that does not know the law is accursed.
Ils parlent et ils disent que la foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits.
But in reality, Paul is saying here, actually, if you choose your origination as the law to prove yourself to God, to find your righteousness there, it's actually you that are cursed.
Et Paul est en train de les contredire, de dire c'est pas les gens qui ne connaissent pas la loi, c'est vous qui essayez de tirer votre salut, votre mérite, l'origine de votre salut de la loi qui êtes sous la malédiction.
The basic big idea is that it's conditional.
L'idée c'est qu'il y a des conditions.
Okay. And that's tough because it's hard for us to live up to our end of the bargain.
Et évidemment, c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à garder notre partie du contrat.
But the cool thing about God and justification by faith,
mais le truc qui est chouette avec la justification par la foi,
it's not conditional.
C'est qu'il n'y a pas de condition.
And let me maybe illustrate it in a very simple way.
Et il veut donner un exemple simple.
That if you choose as your starting point, as your origination, the law.
Si vous prenez l'origine de votre salut, la loi,
or any set of rules,
ou n'importe quelle autre liste de règles,
whatever your ten commandments are,
ce que vous voulez prendre comme vos 10 commandements,
and you use that as your proof that you're good enough.
Et vous avez envie de prendre ça comme preuve que vous êtes assez bon.
At any point, if you slip up,
si à un moment où vous vous trompez, vous commettez une erreur,
you'll just show that you're not good enough.
Vous montrez que vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas assez bon.
That origination does not tolerate slip ups.
Cette origine-là ne tolère aucune erreur.
But justification by faith, if your origination is by faith, in what Jesus Christ did.
Mais la justification par la foi, si c'est votre origine, l'origine de votre salut,
God is not require us not to slip up.
Il n'y a plus cette exigence de ne plus commettre d'erreur.
You guys know what I mean by slip up, right?
Vous comprenez cette idée d'erreur.
Sin.
Péché.
Do wrong.
Faites des mauvaises choses.
Yell at your wife.
Vous engueulez votre femme.
Wait a second.
Oh.
Yell at your roommate.
Vous engueulez votre colocataire.
God does not require us not to slip up, as well as God is not surprised by slip-ups.
Non seulement Dieu n'exige plus que nous ne commettions plus d'erreurs, mais en plus il est plus surpris quand ça nous arrive.
It doesn't shock him when you screw up.
Ça le choque pas quand vous faites n'importe quoi.
And then all of a sudden, you know, you're all messed up and you're thinking, oh no, what have I done?
Et vous, dans votre tête, vous prenez tout ça, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est...
But God has known about that the entire time.
Mais Dieu était au courant depuis le début.
He's always known you're going to screw up.
Il a toujours su que vous alliez commettre ces erreurs.
And yet he still declares us righteous in his sight, even if we do.
Et pourtant, il nous déclare juste vis-à-vis de lui, à ses yeux, on est juste, même si, quand nous le faisons, quand nous commettons ces erreurs.
So we understand that justification does not only deal with our past, because, you know, we've been forgiven, we know all that stuff, that's in our past.
Et donc, notre justification ne dépend pas seulement de notre passé, ce qu'on nous a pardonné, tous les trucs qu'on a fait avant.
But justification by faith deals with our future as well as the present state of our well-being.
Mais la justification de la foi couvre notre présent et notre futur.
Because it's not conditional.
Parce qu'il n'y a pas de condition.
And he continues on. He says, instead, verse 11.
Verset 11 dans Galates. On continue au chapitre 11. Au verset 11 du chapitre 3.
He says that no one is justified by the law in the sight of God is obvious.
Il dit de plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi.
But he cites another scripture and he says, the just, the righteous shall live by faith.
Il cite un autre passage de l'Ancien Testament où il dit, puisqu'il est dit, le juste vivra par sa foi.
Here he's quoting from a scripture in Habakkuk chapter 2 verse 4.
Ici il cite le prophète Habakkuk.
And this is a great book. You should definitely read it.
Et c'est un très bon livre à lire dans la Bible.
And just to give you guys a real brief background, Habakkuk begins with a couple questions.
Et le livre d'Habakkuk, juste pour vous donner un petit peu de contexte, commence avec plusieurs questions.
Habakkuk is asking God, why do you force me to witness injustice?
Habakkuk saying that?
Yeah.
Habakkuk demande à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'obliges à regarder l'injustice?
He says, why do you, God, put up with wrongdoing?
Il demande à Dieu pourquoi il tolère des mauvaises actions.
Destruction and violence confront me. Conflict is present and one must endure strife.
Il dit « Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des procès et des conflits partout. » C'est Habakkuk 1, verset 3.
You see, God is going to use an unrighteous nation to judge the righteous people of Israel.
Dieu va se servir d'une nation sans justice devant Dieu pour juger la nation d'Israël.
And Habakkuk, rightly so, is frustrated. How can God use somebody who's unrighteous to work about his plan and specifically, the big, you know, kind of theme that everybody always asks is, how is there injustice in this world?
Et Habakkuk est frustré et demande comment est-ce que Dieu peut se servir de gens mauvais et d'injustice et de violence pour accomplir son œuvre, et il pose la question qui nous arrive aussi de nous poser, c'est comment est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce qu'il y a de l'injustice dans ce monde? Si tu es un Dieu bon, comment est-ce que tu peux tolérer de mauvaises choses?
And there are good answers to those questions.
Et il y a de bonnes réponses à ces questions.
And one of them is given by God.
Et une de ces réponses est donnée par Dieu lui-même.
And we find Habakkuk chapter 2 verse 4 in the middle of God's response to Habakkuk.
Et on voit le verset 4 du chapitre 2 du livre d'Habakkuk au milieu de la réponse que Dieu fait à Habakkuk.
And just before God gives this response in Habakkuk 2:4, he has said basically that an unrighteous nation or person will eventually be judged by me.
Et Dieu, avant d'arriver à ce verset 4, a dit en gros que quelqu'un de mauvais qui commet des injustices va au final être jugé par Dieu.
That while we do see injustice in this world, ultimately everyone will pay for what they have done.
Et quand nous voyons de l'injustice, des mauvaises choses, des mauvaises actions dans ce monde, toutes ces personnes auront à répondre de leurs actions devant Dieu.
Not one evil thing will go unpaid.
Il n'y aura pas une seule mauvaise action qui ne sera pas repayée.
But God says if there's a person, a righteous person,
mais Dieu dit s'il y a une personne juste,
he will live, he will have life because of his faith.
Il dit il aura la vie à cause de sa foi.
So basically, God is saying, even though you see all this garbage going on in the world,
et donc Dieu dit, malgré tout ce que vous voyez, toute cette poubelle dans le monde,
trusting in God's promise is what will elevate as well as transcend you through any of those circumstances.
Si vous croyez Dieu, si vous croyez ses promesses, c'est ce qui va vous permettre de passer au-dessus, de transcender ces problèmes.
And in the Hebrew Old Testament,
dans l'Ancien Testament hébraïque,
the Hebrew word for faith,
le mot hébreu pour la foi,
is never used without follow-through.
N'est jamais utilisé sans une suite.
So if you're a person of faith,
donc si vous êtes une personne de foi,
you're also a person who is faithful.
Vous êtes aussi quelqu'un digne de confiance ou digne
de foi.
You'll
see some of your translations will translate a righteous person will live because of faithfulness.
Et donc il y a certaines traductions de ce passage-là dans Habakkuk qui traduisent aussi que le juste vivra à cause de sa fidélité ou de son caractère digne de confiance de foi.
So we have to see that just like the Old Testament saints.
Et donc nous devons arriver à voir que comme les justes, les saints de l'Ancien Testament,
it begins with faith.
Ça commence avec la foi,
but it affects our life.
Mais ça affecte nos vies.
Think of Abraham.
Pensez à Abraham.
He was promised a descendant as numerous as the stars.
Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles.
But when he finally gets a son,
mais quand il arrive finalement à avoir un fils,
God asks him to sacrifice him.
Dieu lui demande de lui présenter comme un sacrifice.
That's hard decision.
C'est une décision difficile.
This is God's fulfillment of his promise.
C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu par Dieu.
But this is also God asking him to sacrifice his only son.
Mais c'est aussi Dieu qui demande à Abraham de tuer, d'exécuter son seul fils.
So what do you do?
Qu'est-ce que tu fais?
But Abraham knew that God would fulfill his promise.
Mais Abraham croyait que Dieu allait accomplir sa promesse.
So even in the book of Hebrews, it says that Abraham knew that if he actually ended up killing Isaac, that God would raise him from the dead.
Et dans le livre d'Hébreux, il est dit qu'Abraham savait que même s'il tuait son fils, il faisait confiance à Dieu qu'il le ressusciterait si c'était nécessaire.
So the important thing is not our circumstances, but it's God's promises.
Donc l'important, ce n'est pas nos circonstances, mais les promesses de Dieu.
So he finishes up this argument with a quote from Leviticus chapter 18.
Et Paul finit ici avec une citation du Lévitique, chapitre 18.
He says in Galatians chapter 3, verse 12.
Il dit dans Galates chapitre 3 verset 12.
Yet the law is not of originate in faith.
Il dit la loi ne s'appuie pas sur la foi ou elle ne prend pas son origine dans la foi dans la loi.
But the man who does them shall live by them.
Mais elle dit l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles.
So basically the understanding is that the law is based on conditions, but faith is not.
Donc il est en train de dire que la loi c'est quelque chose de conditionnel, mais la foi ne l'est pas.
And because we are all confined under sin,
parce que nous sommes tous sous le péché,
as we'll see at the end of the chapter,
comme nous le verrons à la fin du chapitre,
we have introduction to argument number 9.
On arrive à l'argument 9.
Verses 13 and 14.
Versets 13 et 14.
And that is that Christ is our substitute from the curse the law produced.
C'est que Jésus est notre substitut à la malédiction que la loi a produit.
Go ahead and read verses 13 and 14.
Disons 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis.
So, Christ has redeemed us from the origin of the curse of the law.
Donc, Jésus nous a rachetés de ce qui produisait la malédiction, de l'origine de la malédiction par la loi.
And the language is important here.
Et le langage utilisé, les termes utilisés sont importants ici.
Jesus actually became a curse.
Il dit que Jésus est devenu malédiction.
It says that his existence, he actually became what the law produces in us.
Il dit que Jésus est en fait devenu, son existence même était cette malédiction, ce que produisait la loi.
He says that Jesus was exposed to divine vengeance in our place.
Il dit que Jésus s'est exposé à la vengeance, à la colère divine à notre place.
And this is important because we're going to see actually at the end of this chapter that all of us are confined into sin by the law.
Et c'est important, on verra à la fin du chapitre qu'il est expliqué que nous sommes tous sous le péché à cause de la loi.
That unless you actually believe in Jesus Christ and he is your righteousness, you, whether you know it or not, are subject to the curse that the law produces.
Que nous tous les hommes, que si nous n'acceptons pas Jésus-Christ et que nous croyons pas qu'il nous justifie, alors nous sommes tous, que nous le savons ou pas, sous la malédiction causée par la loi.
And that curse is divine wrath and punishment against sin.
Et cette malédiction, c'est la colère de Dieu, c'est la punition de Dieu contre le péché.
But instead of us becoming a curse,
mais au lieu que nous ne devenions cette malédiction,
Jesus was made a curse.
C'est Jésus qui est devenu malédiction.
So following in the line with punishment,
et donc avec cette idée de punition,
Jesus received the punishment so we could receive the blessing.
Jésus a reçu la punition pour que nous puissions recevoir les bénédictions.
And just real briefly, the punishment or the blessings were the blessing of Abraham, which comes through the Spirit.
Et juste pour le rappeler, les bénédictions, c'était les bénédictions d'Abraham qui viennent par l'Esprit de Dieu.
So, now we've had two things against the Jews. We've had Scripture, the law, and we have Abraham, the Jews' number one man.
Donc, dans les arguments qu'on a regardés, on a les Écritures, on a parlé de la loi, et on a Abraham, qui sont utilisés par Paul pour contrer les arguments des autorités religieuses juives.
So let's wrap it up with these last two arguments.
Et on va finir avec les deux derniers arguments.
Because the Jews were saying basically, you know, yeah, obviously, you know, I understand what you're saying, but the law came after the promise, so this has to be important.
Et en gros, les Juifs disaient, bon ben, je comprends, mais la loi est venue après les promesses que Dieu a fait à Abraham.
But we see in verses 15 through 18.
Mais on voit au verset 15 à 18
that once God gives a promise,
qu'une fois que Dieu fait une promesse,
nothing can be added to it,
on ne peut rien y ajouter,
and nothing can be taken from it,
et on ne peut rien y enlever,
not even the law of God.
Même pas la loi de Dieu.
So we have the argument of promise.
Donc on a l'argument de la promesse.
Okay, go ahead and read verses 15
through. Disons 15 à 18. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham.
Okay. So Paul uses a human example.
Donc, Paul utilise l'exemple d'un homme.
And he uses the example of a last will and testament.
Et il utilise l'exemple du dernier des dernières volontés du dernier testament.
And basically when a lawyer sets in stone the last will and testament.
Et quand un avocat, un notaire va finaliser le c'est quoi le mot? Le testament? C'est le testament?
Nothing can be added or subtracted to it apart from the will of the person writing the testament, the will.
À part la personne qui est en train d'écrire son testament, on ne peut pas, personne d'autre peut y rajouter ou enlever quelque chose.
But Hebrews chapter 9, obviously, once the testator dies, then it's done. There's no more addition or subtraction, period.
Comme il est mentionné dans Hébreux 9, une fois que la personne qui a fait le testament est décédée, c'est fini, le testament est figé.
And we see here that God's promise was ratified by God himself.
Et la promesse de Dieu a été ratifiée par Dieu lui-même, a été assurée par Dieu lui-même.
In fact, to Abraham, God repeatedly, and at the end of his life, one of the most important things is he ratified his promises to Abraham. So Paul is saying nothing can be added and nothing can be subtracted to God's promises.
Et vis-à-vis d'Abraham, Dieu a ratifié, a assuré que ses promesses étaient figées et donc rien ne peut être ajouté ou enlevé à ses promesses.
But he says, importantly, at the end of verse 16,
à la fin du verset 16,
he says that the promise were made to Abraham and to his seed, and he makes a point to say singular seed, and he names that person who is Christ.
Et Paul précise ici, lorsqu'il parle d'Abraham et de sa descendance à qui ont été faits la promesse de Dieu, et il spécifie qu'il s'agit d'une seule descendance et qu'il s'agit en fait de Jésus.
This is important to later studies into our inheritance.
Et c'est important pour des études par rapport à notre héritage spirituel.
So, God doesn't lie.
Donc Dieu ne ment pas.
God cannot change.
Dieu ne peut pas changer.
He is always true.
Il dit toujours la vérité.
And so Paul says even the law which came 430 years later.
Et donc il dit même la loi qui est venue 430 ans plus tard.
It can't render inoperative or completely abolish the promise that was made to Abraham.
Même cette loi qui est venue après ne peut pas changer ou abolir la promesse que Dieu a faite à Abraham.
And he concludes by saying, if the inheritance is of, and this is again that originates in the law, it is no longer of promise, but God gave it to Abraham by promise.
Et il conclut en disant, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham.
All right. So it brings us to our last and final argument.
Maintenant, regardons le dernier argument, le dernier point que nous allons regarder.
This is the 11th argument.
C'est le point 11 dans la défense de Paul ici.
And this concludes our section on Paul's defense of the gospel.
Et ça conclut la défense, la partie du livre de Galates avec la défense de l'évangile par Paul.
And go ahead and read verses 19 through 25.
On va lire les versets 19 à 25. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Christ Jésus à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide.
Okay, so this argument is called the argument of the true purpose of the law.
Cet argument s'appelle le vrai objectif de la loi.
So we've seen Paul kind of go against the law for a few chapters now.
Donc depuis quelques versets, on a vu Paul qui s'oppose un petit peu à la loi.
But now he gives us the true purpose of the law in God's plan, as well as the purpose of the law in our lives.
Mais maintenant, il donne l'objectif, l'importance, le pourquoi de la loi dans nos vies et dans l'histoire.
Because it's important that we don't just regard the law as something evil.
Parce que c'est important que nous ne pensions pas simplement que la loi c'est quelque chose de mauvais.
Because the law perfectly shows us God's holy character.
Parce que la loi nous montre la perfection, le caractère parfait et juste de Dieu.
So it's only natural as you grow closer to God, you're going to come more in contact with His holiness.
Et plus vous connaissez, plus vous apprendrez à connaître Jésus, Dieu, plus vous allez être confronté à ce caractère juste.
And because of that, our own sinfulness.
Et à cause de ça, ça va révéler notre péché.
So, the purpose of the law.
Donc, l'objectif, le pourquoi de la loi.
Here and in other places, we see that the purpose of the law was number one, to define sin, increase sin, and magnify sin.
Ici, comme dans d'autres endroits dans la Bible, on voit que l'objectif de la loi, c'était de définir le péché, de le catégoriser, de le un petit peu le magnifier.
And then second, to show that everybody had sin.
Ensuite, ça permettait de montrer que tous péchaient.
Third, to convict those who broke it.
Et le troisième point, c'était de confondre ceux qui ne respectaient pas la loi.
Look at verse 19.
Regardez le verset 19.
He says, "What purpose does then the law serve?"
Il dit, pourquoi donc la loi?
It was added because of transgressions, sin in our lives.
Il a dit, elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, des péchés dans nos vies.
Till the seed should come to whom the promise was made.
Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite.
And it was appointed through angels by the hand of a mediator.
Et elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur.
Okay, just in case, again for you Bible nerds.
Encore une fois, pour ceux qui sont très pointus sur la connaissance de la Bible.
The reference to the mediation of the law by angels is a Jewish tradition corroborated by Scripture.
Cette idée de promulgation par des anges de la loi, par un médiateur, c'est quelque chose de, qui était une tradition juive et qui est corroborée par certains passages dans l'Ancien Testament.
Here, as well as Acts chapter 7 by Stephen and Hebrews chapter 2, all of these things corroborate that the law was actually given by angels.
Et dans Acte, Acts chapter 2?
Acts chapter 7.
Acte chapitre 7 et dans Hébreux 2, on peut voir en fait que la loi avait été donnée par des anges.
Okay. And then verse 20 says, and a mediator doesn't mediate for one only, but God is one.
Et le verset 20 dit, un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul.
So we see that in the law, we saw that there is a mediator. God gave the Ten Commandments to angels who gave the Ten Commandments to man.
Dans le cas de la loi, on voit qu'il y avait un médiateur, a priori les anges. Dieu a donné la loi aux anges qui l'ont donnée aux hommes.
And that God remained holy and intact while giving his commandments to mankind.
Que Dieu est resté saint et incorrompu lorsqu'il a donné la loi aux hommes.
And it's hard to do this without doing my illustration. Can I get 3 volunteers? You guys okay with this? Who's the most tired here in the room?
C'est qui les gens les plus fatigués ici dans la pièce? Est-ce qu'on peut avoir 3 volontaires pour un exemple concret?
All right, come on up. She's falling asleep on Pierre's shoulder.
Elle s'endort sur l'épaule de Pierre là-bas.
Will you come up too? You have to ask Michael then to come up and introduce you.
Alors, Michael.
All right. So, I'm going to have you be mankind. You can just sit right here. Though.
Okay.
Tonio's man.
Moi, je suis l'homme.
So, which part of the Trinity should Michael be?
Quelle partie de la Trinité est-ce que...
The Spirit?
L'Esprit Saint.
What about Philippa?
Philippa? The mother.
Mother? Hold on. We'll make you God the Father. Okay?
Philippa et Dieu le Père.
Jesus.
All right. So, et Pierre et Jésus.
Go ahead and line up in single file line.
Mettez-vous en ligne droite.
Facing each other. So...
Les uns en face des autres.
Or not facing the crowd. Like,
yeah. En face des gens.
There we go. Perfect. Okay, so what we see here is we have God intermediating through me, who's going to be an angel.
Okay, donc ici on a Dieu. Jordan est un ange, donc Dieu va parler à travers l'ange.
Who's going to give the law to mankind?
Qui va donner la loi à l'homme?
Okay, so God gives me the law.
Donc Dieu me donne la loi.
And I give it to man.
Je la donne à l'homme.
And man has to fulfill his end of the bargain.
Et l'homme doit respecter sa partie du contrat.
And since man doesn't fulfill his end of the bargain,
et puisque l'homme n'y arrive pas,
I tell God,
l'ange dit à Dieu,
and he punishes man.
Et Dieu punit l'homme.
But in the new covenant,
mais sous la nouvelle alliance,
we have God, the Trinity working together.
La Trinité travaille ensemble.
So what we have is God actually becoming a man.
Donc il y a Dieu devient un homme.
Who comes in the power of his spirit.
Vient par la puissance de son esprit.
From God, the Father.
Envoyé par Dieu le Père.
So we have actually the new covenant.
Donc la nouvelle alliance.
In contrast to the old covenant.
En contraste avec l'ancienne alliance.
Is completely fulfilled by God.
Est complètement remplie par Dieu.
Because God gave the covenant.
Parce que Dieu a donné cette alliance.
And God fulfilled the responsibility of the covenant.
Et Dieu a accompli les exigences de cette nouvelle alliance.
So, in reality,
donc en réalité,
mankind,
l'humanité
just believes in what God has done.
croit simplement à ce que Dieu a fait,
while actually not really participating in the work of the atonement.
Sans vraiment faire partie de ce travail nécessaire pour cette expiation.
Thanks, guys.
Merci.
So Paul concludes in verse 21.
Donc Paul conclut verset 21 dans chapitre 3 de Galates.
He says, "Is the law against the promises of God?"
Il dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu?
He says, "Absolutely not."
Il dit, certainement pas.
If there had been a law which could have been given,
il dit, si une loi qui avait pu être donnée,
truly righteousness would have come by the law.
Alors vraiment, la justice aurait pu venir par la loi.
But Scripture has confined all people under sin.
Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché.
That the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe in God's work.
Afin que ceux qui avaient été promis soient accordés par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient.
But before faith came,
mais avant que la foi vienne,
we were kept under guard by the law.
Nous étions prisonniers sous la garde de la loi.
And he gives two metaphors for illustrating the purpose of the law.
Et il donne deux métaphores pour illustrer le pourquoi de la loi.
One is being kept under guard, which is a military term.
L'un, c'est une image militaire, cette idée d'être gardé.
But besides being kept in prison, I don't want you to think of the law negatively, like a cold, damp, dark place.
Mais on ne veut pas se cantonner à une image de la loi comme une prison sale, sombre, froide.
Think of it more as like protective custody.
Plutôt comme une protection judiciaire de témoins pour vous garder de danger.
Where you're the witness and the law has to protect you from sin, who's the criminal or something like that.
Vous êtes le témoin et la justice doit vous garder du péché qui serait comme un criminel.
But it says we were kept under guard, we were kept for faith which would afterward be revealed.
Mais il est dit qu'on était gardé, qu'on était protégé, prisonnier pour la foi qui allait venir après, qui devait être révélée.
Just as a little personal side note.
Et juste un petit aparté personnel.
It's important that it's not just about faith here.
C'est important que ce soit pas juste une question de foi ici.
This is about a God who reveals.
C'est une question de Dieu qui révèle des choses.
Because some people could say, you know, just name it, claim it in God's name.
Certaines personnes pourraient dire, bon ben, dites-le, annoncez-le, par la foi, demandez des choses au nom de Dieu.
But unless God reveals it,
mais à moins que Dieu ne révèle les choses,
you should be careful.
Faites attention.
He says the second metaphor is the law was a tutor.
La deuxième image, illustration, c'est une idée d'enseignant ou de maître un petit peu de.
You gotta think of it as the nanny.
Un petit peu comme une nounou, voilà.
Nounou. Mm-hmm. Yeah. You know they just kind of smell funny.
Ils ont toujours une odeur bizarre.
They're nounous. Always keeping you out of trouble.
Ils vous évitent toujours d'avoir des problèmes.
So the law kept us under guard and was our tutor, but the point here is to bring us unto, towards, the motion that it was carrying us to was towards Christ.
Et donc c'était un guide chargé de nous conduire à Christ.
And it says that we might be justified, declared righteous in God's sight by faith in what Jesus has done.
Afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi.
But after faith has come, after Jesus has come,
depuis que la foi est venue, depuis que Jésus est venu,
we are no longer under a nanny or a tutor.
Nous ne sommes plus soumis à ce guide ou une nounou.
You don't gotta ask some old lady what to do.
Il ne faut pas demander à une vieille dame ce que vous avez le droit de faire.
No, you gotta ask the cops who are carefully guarding you what you can and can't do.
Ou vous n'avez pas à demander à vos gardes, à des policiers qui vous garderaient ce que vous avez le droit de faire ou de pas faire.
You can go straight into the presence of Jesus.
Vous pouvez aller directement voir Jésus.
Let's pray.
Prions.
Lord, keep this ingrained in our minds.
Jésus, garde ça ancré dans nos pensées.
That if the devil or anyone ever assaults us with anything that we have to do to prove ourselves to you, we would remember the promise you made to us.
Que si quelqu'un, si Satan, si des pensées viennent qui nous font croire que nous devons mériter notre statut devant toi.
And Lord, if we do sin, if we do mess up,
si nous arrive de pécher ou de commettre de mauvaises actions,
may we not run to our nanny or to the cops?
Aide-nous à pas aller voir notre nounou ou des policiers.
But may we run straight into your arms.
Mais aide-nous à aller directement dans tes bras.
In Jesus' name.
Au nom de Jésus.
Amen.
Amen.